6h02 exactement. C'est pas chaud. Mardi 2 mars, moins 18 degrés. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Et ça va être froid une bonne partie de la journée, surtout avec les vents. Il fait froid de base, là, mais ajoutez les vents ce matin, puis vous allez voir que c'est quand même assez saisissant. Mais la journée sera quand même généralement ensoleillée. Les vents, je le disais, de 30 à 50 km/h. Maximum prévu autour de moins 8 degrés. Et quand on calcule le refroidissement éolien, c'est moins 28 ce matin et moins 15 pour l'après-midi. Alors, si vous sortez tôt ce matin, vous travaillez à l'extérieur, vous devez marcher, il faut vraiment s'habiller chaudement. Ce soir et cette nuit, on prévoit des nuages. Il y aura de la neige en soirée, une première accumulation de 2 à 4 cm. Et encore là, il peut y avoir un peu de poudrerie, c'est venteux. Et les températures seront à la hausse pour atteindre moins 5 au cours de la nuit. Et finalement, pour demain mercredi, généralement nuageux, il y aura un petit peu de neige, mais pas beaucoup d'accumulation, un maximum autour de 1 degré. Et retour vraiment du soleil jeudi, qui va être une journée superbe. Là. On prévoit moins 6 degrés, mais vraiment ensoleillé, pas de nuages. Le sujet de l'heure, la vaccination. Deux ou trois points ce matin. Le premier concerne les délais, l'attente là, dans plusieurs sites hier, notamment les grosses cliniques de vaccination, que ce soit le Palais des Congrès, que ce soit le Stade olympique. Les gens sont arrivés tôt. C'est un réflexe normal, j'allais dire, typiquement québécois, de se dire on a un rendez-vous à 2 heures, puis on arrive 2 heures d'avance. T'sais, on ne prend pas de chance, d'un coup qu'on n'a pas de place pour stationner. Il va peut-être y avoir plus de monde. Puis ajouter à cela les ajustements normaux quand on reçoit autant de patients à vacciner. Je peux pas dire que hier, ça m'a, un, surpris, puis que deux, là, on fait jouer l'extrait de quelqu'un qui était scandalisé, là. Je pense qu'il faut pas non plus charrier. Le vaccin, là, faut toujours se rappeler que le vaccin arrive plus vite, qu'on commence à avoir un certain approvisionnement. Puis trois, les choses vont finir par se placer, s'organiser. Alors, je regardais ça hier, puis je peux comprendre que c'est plate d'attendre, mais en même temps, on commence à être habitué d'attendre. Puis il y a des gens qui n'ont pas peur de faire la queue pour aller chez Costco. Puis rappelons-nous, les files d'attente extérieures, là, pour aller dans les grandes surfaces, bien là, c'est pour un vaccin. Puis les gens se disent, bien, on y va. Puis on respecte le 2 mètres, puis la cadence va finalement trouver sa mesure, puis on va pouvoir vacciner les gens. Fait que ça, c'est sérieusement, là, des problèmes un peu d'adaptation, comme on l'a vu la semaine passée, avec la formule « rendez-vous pour la vaccination ». Là où il y a un problème, et là où le gouvernement a intérêt à mettre les pendules à l'heure assez rapidement, ça concerne les 70 ans et plus. Hier, frustration, et je le dis là, à tous les élus et leurs attachés qui écoutent, là, la frustration des gens de la rive sud de Montréal, la Montérégie, là, était assez palpable. Pourquoi? Parce que hier matin, M. Paré, dans cette émission, qui est le responsable national de la vaccination, nous dit « Montréal-Laval, 70 ans et plus, prenez vos rendez-vous. » Il y a eu quelques ajustements avant 9 heures, là. Mais oui, les gens de Montréal, 70 ans et plus, prenez rendez-vous, faites-vous vacciner. Et là, les gens attendent un peu, pourquoi Montréal-Laval et pourquoi pas la Rive-Sud? Donc, il y a une concentration de vaccins parce qu'on a plus de cas, Montréal et Laval, puis on dit à la Rive-Sud, bien, vous attendez. Alors là, les gens étaient frustrés parce qu'ils se disent, quand vient le moment, puis je comprends que l'équation n'est pas parfaite, mais elle est dans la tête des gens. Quand on applique des mesures de contrôle sanitaire puis qu'on ferme des établissements, bien là, soudainement, ça devient le Grand Montréal. Puis quand on parle de vaccination, ça devient l'île de Montréal. Et ça frustre les gens. Ce qui est encore plus frustrant, puis ce que je vais vous dire, je ne devrais pas le dire, mais je vais vous le dire pareil, c'est qu'il y a plein de gens de la Rive-Sud qui sont allés s'inscrire sur le site et qui ont obtenu des rendez-vous pour aujourd'hui, pour demain, au Palais des Congrès, des gens de 70 ans, des gens de 71 ans. Et là, on a tenté hier de cogner à la porte de la bureaucratie, les CIUS puis les CIS, en disant « Pourriez-vous expliquer, Jean de Montérégie, pourquoi c'est comme ça chez vous? » Réponse de marbre, réponse plate, insignifiante. On n'a rien à dire, l'opération suit son cours. Bien, c'est ça quand on a un problème de communication. Je vous le dis sérieusement, là, à tous les membres de l'élite politique et tous les pages qui entourent les ministres, là, Il y a un problème sur la rive sud. Sérieusement, là, pour convaincre les gens du pourquoi de. Et je peux vous le dire, les gens de Saint-Hubert, Saint-Lambert, Boucherville, ils s'inscrivent pour aller se faire vacciner à Montréal. Il n'y a pas de problème. Alors, vous auriez intérêt à parler puis à dire exactement ce qui se passe. Entre-temps, officiellement, on nous dit qu'il y a eu 210 000 rendez-vous de prix jusqu'à maintenant pour la vaccination. Une personne accompagnatrice, là, l'aidant, pourrait se faire vacciner en même temps si elle respecte les critères suivants. Si elle est âgée de 70 ans ou plus, si elle soutient une personne de 80 ans et plus. 60 ans et plus si elle est aidant naturel pour une personne de 70 ans et plus et qu'elle est présente 3 jours par semaine ou plus auprès de cette personne. Sérieusement, est-ce quelqu'un qui va vérifier ça, là? Alors, pour ce qui est des âges, je regardais ce matin officiellement sur Clic Santé, là, pour vous donner l'heure juste, là. Dans l'Abitibi, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, on est dans les 80 ans et plus pour ce qui est de la vaccination. Côte-Nord, 70 ans et plus. Montréal, là, on est revenu à... En fait, on est à 70 ans et plus. Laval également. Mais quand on regarde la situation dans d'autres régions, c'est vraiment du 80 et plus facilement. Pour ce qui est de cette... La Montérégie, c'est 80 et plus. Puis là, il paraît que ça pourrait peut-être baisser. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a de la confusion concernant, justement, la vaccination pour les 70 ans et plus. Deuxième élément dont il faut parler ce matin, là, c'est la liste prioritaire. Et le comité qui détermine... Parce que beaucoup de gens se disent, OK, des gens de cancer là, qui ont la maladie puis d'autres maladies chroniques, des techniciennes en radiologie qui ne sont pas dans les hôpitaux qui disent « Ouais, mais on voit des patients, est-ce qu'on ne devrait pas se faire vacciner? » La liste de gens qui lèvent la main en disant « Comment ça se fait que? » est très élevée. Alors, il y a des recommandations préliminaires qui ont permis d'établir la première liste. On commence par qui? CHSLD, les RPA, les employés du réseau de la santé, les fameuses premières lignes. Et là, à la lumière de ce qu'on voit, ce qu'on découvre, il est possible que la liste prioritaire soit ajustée et qu'on ajoute des gens plus jeunes ou des gens qui sont plus vulnérables. Alors, il y a un point de presse 13h cet après-midi. Christian Dubé, il y a également le docteur Arruda et aussi le responsable, M. Paris, là, de l'opération vaccination. Donc, on pourrait tenir compte de l'état de santé de certaines personnes pour déterminer qui ont... devance là, comme priorité de vaccination. Et je rappelle que tout ça est intimement lié là, avec les approvisionnements en vaccins. Ce qui m'amène à vous parler d'AstraZeneca. Le vaccin est approuvé par Santé Canada qui dit on peut le donner à tout le monde. Et là, vous avez les responsables de la vaccination à l'échelle du pays qui disent, par contre, il est recommandé de ne pas le donner aux gens de 65 ans et plus. Parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de données pour déterminer l'efficacité du vaccin. En France, on a dit ça dans un premier temps, puis là, vous allez découvrir que depuis hier, là, le AstraZeneca, on le donne à tout le monde. Parce qu'on dit qu'il y a une situation de pandémie puis d'urgence, puis même s'il n'est peut-être pas aussi efficace, au moins, il va protéger une partie des gens. Alors, c'est pas tout à... il n'est pas interdit là, au Canada, le AstraZeneca, pour les 65 ans et plus, mais il n'est pas recommandé. Et je rappelle que vous n'allez pas choisir votre vaccin, là. Ceux qui s'en vont à leur rendez-vous aujourd'hui, qui pensent qu'ils vont dire « OK, moi, vous prenez un Pfizer », ça ne marche pas comme ça du tout. C'est le vaccin disponible, puis c'est celui qu'on va vous administrer. Et il semble d'ailleurs qu'une seule dose semble avoir beaucoup d'effets protecteurs. Et Québec s'est fait blâmer au début, il faut se le rappeler, là, d'avoir choisi l'option de vacciner le plus de gens possible et de repousser la deuxième dose. La deuxième dose, elle va venir au terme des 90 jours, là. Mais c'est un exemple qui est maintenant suivi en Ontario, en Colombie-Britannique, où vraiment, on est en retard, je pense surtout à l'Ontario, et qu'on se tourne vers cette stratégie, première dose, au plus grand nombre possible de gens. Et j'ajoute une petite manchette qui est dans le Soleil de Québec ce matin. Il n'y aura pas de compensation pour les hôteliers qui n'ont pas pu ouvrir les piscines. On sait qu'en période de relâche scolaire, il y a beaucoup de gens qui ont choisi d'aller dans des hôtels où il y avait des piscines. Et là, on a décidé de fermer. L'Association des hôtels du Grand Montréal a dit s'attendre à des annulations et demander que les établissements soient compensés pour les pertes. Tu sais, tu arrives avec deux enfants, tu penses que tu as accès à la piscine, tu n'as pas accès, bien, tu annules. Et là, les hôteliers disent « Donnez-nous de l'argent pour ça, on va être compensé. » Réponse de la ministre Caroline Proulx, « Oubliez ça, il n'y aura pas de compensation. » Maintenant, tantôt, je vous disais que Québec aurait intérêt à dire la vérité là, concernant les 70 ans et plus pour, je dirais, arrêter la confusion. Parce qu'il y a bien des gens de frustrés. Je vous le jure, là, des fois, je dis ça, puis il y a des gens qui prennent ça en disant « Ouais, ils exagèrent. » Ce matin, là, faites le tour de la Rive-Sud. Là, demandez aux élus caquistes de la Montérégie d'aller prendre, disons, une petite marche avec des électeurs ou prendre un café, voir comment est-ce qu'ils perçoivent ça, les 70 ans et plus. Je pense qu'ils vont téléphoner au bureau du premier ministre pour donner le pouls de la population. La deuxième chose, M. Legault a dit dans une entrevue à Radio-Canada concernant cette jeune femme de 28 ans qui est décédée, fille de Normand Chouinard et de Violette Chauveau, qui, les parents ont dit au moment du décès, elle était sur une liste d'attente, on ne l'a pas opérée, puis elle est morte. Pas eu d'autres détails, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, dans cette entrevue, le premier ministre Legault dit que le délestage n'a fait aucun mort jusqu'à maintenant. Il dit avoir vérifié lui-même auprès de sa sous-ministre, Lucie Opaterné, après la mort de cette jeune femme, qui attendait une chirurgie. Il dit « Il n'y a pas eu de délestage pour le genre de chirurgie qu'elle attendait. » Elle me dit, Mme Opaterné, docteur Opaterné, « Et moi, je la crois. C'est qu'il n'y a aucune chirurgie urgente où il y a une question de vie ou de mort qui a été reportée. Il peut y avoir des cancers qui progressent, mais les balises sont respectées. Quand quelqu'un a besoin d'être opéré pour le cancer, il est opéré pour le cancer. » OK. Ou ben donc, on l'informe tout croche, ou ce matin, on fait de la comptabilité imaginative et créative. Juste vous rappeler que le printemps dernier, alors que M. Legault nous disait « c'est parce que les gens ne se présentent pas, il n'y a pas de délestage », c'était pas vrai. Il y avait du délestage. Puis dans le livre de mon ami Alec Castonguay, là, on s'aperçoit qu'entre ce qui se passe sur le terrain puis ce qui remonte au bunker, il s'en perd dans l'ascenseur. OK? 4000 cas de cancer non diagnostiqués au Québec, strictement pendant la pandémie. Qui a fait l'étude? Le gouvernement. Alors, la réalité, c'est quoi? OK? La réalité, là, c'est que si je te passe pas de test, si tu n'as pas d'examen, si je suis obligé de repousser une chirurgie qui, à première vue, est peut-être pas la plus urgente, ça se peut que j'échappe des cas de cancer. Ça se peut que je découvre dans deux semaines, dans deux mois, que la masse, elle est maintenant, je dirais, maligne, et que ce que je voulais prévoir comme traitement, il faut que je passe à une autre étape. Quand vous parlez à des gens en radiologie, quand vous parlez à des médecins, puis on va parler au docteur Champagne tantôt, là, il découvre de plus en plus de cancers avancés. Fait que M. Legault, il peut bien jouer sur les chiffres puis de nous dire que Dr. Opaterné lui a garanti qu'il n'y a pas de chirurgie urgente pour le cancer qui a été annulé. Ben non, on a juste repoussé dans le temps des cancers urgents. Des cancers ou des masses qui se transforment en cancers. Et c'est ça qui arrive dans le réseau de la santé. C'est pas vrai qu'on délaisse 28, 30, 40 % qui s'ajoutent aux listes d'attente habituelles sans qu'il y ait un effet sur la santé des gens. Je pense que c'est important de dire ça ce matin. Un autre dossier dont on va parler, puis je vous rappelle toujours avec, disons, certaine impatience qu'on attend le rapport de la commission Laurent. On sait que ça prend du temps, il faut qu'ils fassent les choses correctement, puis, comme on dit, de se dire comment on va protéger mieux les enfants qui sont vulnérables au Québec. Je vais vous faire entendre ce matin le point de vue d'une mère que je ne vais pas identifier, mais qui est mère de famille d'accueil depuis mars 2019. Accréditée, là, puis c'est dur au Québec de trouver des familles d'accueil accréditées par la DPJ. Dans les deux dernières années, elle s'est occupée d'un enfant de 4 ans à l'époque, dont elle avait la garde. Et elle m'a écrit, on va lui parler tantôt, je la cite, « J'ai été témoin du travail extraordinaire d'intervenants et intervenantes dévoués, coincés dans une lourdeur administrative et un système de justice défaillant. J'ai été témoin du fait que la loi ne protège pas l'enfant, mais les parents. J'ai vu un petit bonhomme dépérir au point où il doit maintenant être placé en centre de réadaptation à l'âge de 6 ans. J'ai dû, à de nombreuses reprises, me présenter au tribunal car chaque décision des intervenants était contestée par les parents biologiques. Lors de la toute dernière audience, une juge a déterminé que malgré le souhait clair de l'enfant, il est trop petit pour décider, de ne plus avoir de contact avec sa mère, Il n'en voulait pas, cet enfant-là, à 6 ans. Malgré que lorsqu'on l'oblige à en avoir, il se désorganise au point d'avoir à être arrêté physiquement, malgré que de tels comportements risquent de le conduire en centre jeunesse fermé, cet enfant doit avoir des contacts avec sa mère. Quand on dit souvent que ce n'est pas l'enfant qui est au cœur des préoccupations, c'est d'abord l'intérêt des parents biologiques, malheureusement, dans trop de cas, au détriment de l'enfant. Et on a entendu plein de gens, les intervenants de DPJ, parler. On va laisser la parole ce matin à des gens qui représentent des familles d'accueil. Et en parlant de famille, un peu plus tard dans l'émission, je vais parler avec Camille Kouchner, qui a écrit un livre qui a fait grand bruit en France. Ça s'appelle « La Familia Grande », publié aux éditions Le Seuil. Camille Kouchner est la fille de l'ex-ministre Bernard Kouchner. Ses parents séparés ont eu plusieurs enfants, dont elle et son frère jumeau. Sa mère a refait sa vie avec une vedette de l'univers politique français qui s'appelle Olivier Duhamel, constitutionnaliste, invité sur toutes les tribunes pour donner son avis. Et elle écrit dans ce livre comment son frère, adolescent, a été abusé par le beau-père. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment c'était un sujet tabou. Comment, son frère ne voulait pas le dire, mais comment les gens bien-pensants de Saint-Germain-des-Prés, la gauche caviar française, l'entourage de François Mitterrand, tous les gens qui font partie d'une certaine élite intellectuelle et bourgeoise, se livraient à toutes sortes d'activités avec des enfants et que c'était finalement admis dans un certain silence complaisant. Et que surtout, une fois que ça s'est su, plutôt que de laisser place à la parole, c'est le silence qui a été envahissant. C'est un livre vraiment qui frappe. Et quand on connaît les secrets du Québec, les cas d'inceste au sein des familles, tu lis ça avec une approche culturelle différente, mais tu sais combien de gens ont été victimes de ça, puis de quelle façon les familles ont étouffé les scandales. Donc, la Familia Grande, j'en reparle un peu plus tard ce matin. Rapidement, dans les autres nouvelles, on peut dire ce matin qu'un des personnages clés du scandale de corruption du CUSUM, M. Yanaï Elbaz, a été obligé de remettre 6 millions. Lui et le bon Dr Porter avaient ramassé, dur à dire, là, mais au-delà de 22 millions, il y a des sommes qui ont été récupérées, tout ça pour un contrat pour SNC-Lavalin de 1,3 milliard. L'argent avait été envoyé dans un compte aux Bahamas avant qu'une grande partie soit transférée dans des propriétés des comptes bancaires à l'étranger. Et là, on a été capable de remonter la filière jusqu'en Suisse et récupérer une partie de l'argent. Je vais parler également ce matin de la violence familiale qui est maintenant un des critères quand vient le moment d'étudier le divorce, donc des modifications qui ont été apportées à la loi canadienne sur le divorce qui sont entrées en vigueur hier. Des facteurs, et là, je fais toujours bien attention, mais officiellement, un juge, une juge devra considérer l'intérêt supérieur de l'enfant dont les répercussions qu'il vit de la violence domestique. Peux-tu vous dire qu'on a du travail à faire là, pour que ça soit hautement considéré? Et ça relève du fédéral, bien sûr, la loi du divorce. Donc, on vous donnera d'autres détails sur les changements importants qui ont été enregistrés. Et un mot pour vous dire que Sarkozy va en appel, qu'il y a un paquet de procès qui le concerne, tout ça pour des histoires de corruption reliées à du financement politique, mais quand même, il faut le faire. Là. On pense pas qu'il va aller en prison comme tel, mais il y a au moins un an de prison ferme, mais ce qui veut dire aussi, dans les faits, de purger une peine avec un bracelet à la maison. Alors, procédure d'appel, il y a d'autres procès, d'autres causes pour différents scandales de financement politique. Alors, c'est la première fois là, qu'un président français, pour qui l'horizon politique vient de s'éteindre, là, Nicolas Sarkozy, se retrouve condamné formellement pour une affaire de fraude. Et Andrew Cuomo, notre voisin de l'État de New York, bien là, ça continue. On est rendu une troisième personne qui lève la main en disant qu'il a fait, en fait, qu'il y a eu des comportements pas tout à fait corrects. Alors, c'est allé de commentaires. Aimeriez-vous avoir des rapports sexuels avec un homme plus âgé? La main dans le dos, puis je vous embrasse. Et autres allusions du genre. Et là, il répète sans arrêt que c'est finalement... disons, un geste déplacé, une forme d'inconduite et qu'il regrette. Mais ça commence à faire pas mal de monde qui lève la main. Il est 6h22. La métropolitaine.